Retour de Paris pour le député Nicolas Metzdorf qui a fait sa rentrée parlementaire. Il a également évoqué le dossier calédonien avec ses interlocuteurs. Entrée en vigueur du couvre-feu à partir de 22h ce soir, une mesure qui permet une reprise d'activité un peu différente pour les restaurateurs et les services de livraison de repas. En métropole, retour sur la cérémonie d'ouverture et ses polémiques, les organisateurs se défendent de toute volonté de froisser la communauté chrétienne. L'attaque du Hezbollah sur le nord d'Israël a fait 12 morts, des enfants et des adolescents. La communauté internationale craint le risque d'une intensification de la guerre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal Le Sport. Il en sera évidemment question dans notre Mac des Sports à la fin de ce journal. Mickaël Juneski, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Avec une large part consacrée évidemment aux JO et de nouvelles médailles pour les Bleus.
L'exploit du rugby à 7 et d'Antoine Dupont, la consécration de la vététiste Pauline Ferrand-Prévot, la chasse à l'or ouverte pour le nageur Léon Marchand. Les sensations et les émotions étaient au rendez-vous d'entrée de jeu pour les Bleus. La France totalise déjà 8 médailles, dont 3 en or et se place au 4e rang du classement. C'est plus qu'encourageant pour réussir ce Paris 2024.
Nous reviendrons aussi sur la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Spa-Francorchamps, Grand Prix de Belgique. Et puis, dans l'actualité en Calédonie, nous parlerons des jeunes athlètes calédoniens qui ont brillé lors des championnats de France.
Oui, au championnat de France Open et à venir en métropole, Loanville, Leslie Filiatou-Oulaga et toute la délégation calédonienne est rentrée avec des médailles dans ses valises. Nous ferons le point sur ces dernières compétitions de la saison avec leur encadrant, Eric Reuillard, dans nos studios aux côtés de Leslie Filiatou-Oulaga, titré au disque et au poids, et Vadim Strogar, champion de France du 110 mètres haies chez les moins de 18 ans.
Le Mac des Sports, c'est donc dès la fin de ce journal. Nicolas Metzdorf veut remettre le dossier calédonien en haut de la pile des préoccupations de l'État. C'est le sens des entretiens qu'il a eus à Paris à l'occasion de la rentrée parlementaire et lors de la rencontre entre le président de la République et les 4 parlementaires calédoniens. À cette occasion, le chef de l'État a pris des engagements en matière d'ordre public parce qu'il estime que le rétablissement de l'ordre est l'une des conditions à la reprise des discussions.
Ce qu'il y a de rassurant, c'est que j'ai trouvé que le chef de l'État considérait que c'était une priorité. Le retour à l'ordre, parce qu'il analyse la chose de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il considère que tant qu'il n'y a pas de retour à l'ordre partout, c'est difficile d'avoir une négociation politique de qualité. Je pense qu'il a raison. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a maintenu le nombre de forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques. On avait très peur que beaucoup de forces de l'ordre rentrent avec les JO de Paris. Et puis finalement, les effectifs sont maintenus et ils seront même renforcés après les JO, c'est-à-dire qu'on aura encore plus de forces de l'ordre après les Jeux Olympiques.
Le chef de l'État a également proposé le report des provinciales à l'année prochaine. Une bonne idée, selon Nicolas Metzdorf, à qui nous avons demandé comment serait réglée la question de la modification du corps électoral.
Je trouve que le décalage des élections provinciales participe à les organiser avec un corps électoral qui soit dégelé. Puisqu'aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a que dans un accord politique ou par un référendum national, mais c'est mieux dans un accord politique, parce que le référendum national, on ne sait pas comment ça termine, c'est que dans un accord politique qu'on pourra dégeler le corps électoral, puisqu'aujourd'hui, avec la montée de la gauche à l'Assemblée nationale, on a perdu la majorité au Congrès de Versailles, très clairement. Et donc, il faut aujourd'hui poser le sujet dans une discussion plus élargie. Et donc, je crois que le décalage des élections provinciales va nous permettre de trouver les équilibres sur le sujet. En tout cas, il le faut.
La reprise des discussions est envisagée dès le mois de septembre à Paris, mais pour le député de la première circonscription, il ne s'agit plus de trouver un accord, mais un compromis politique.
Un accord, ça voudrait dire qu'on est d'accord sur tout, sur qu'est-ce qu'on doit faire de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un avant et après 13 mai, politiquement, c'est une évidence. Et je crois qu'il faut considérer aujourd'hui qu'on n'a pas la même vision pour la Nouvelle-Calédonie avec les indépendantistes, qu'on ne partage pas le même projet, parce que nous, on voulait, par exemple, un peuple calédonien. De fait, j'ai cru comprendre qu'ils n'en voulaient pas, vu les exactions qui ont été commises, et que donc, désormais, ça va être un compromis. Ça va être comment on fait pour qu'on puisse continuer à vivre en paix, même si on ne partage pas les mêmes aspirations pour la Nouvelle-Calédonie.
Nicolas Metzdorf appelle à l'unité de sa famille politique au sens large dans la perspective de ses discussions sur l'avenir. Il évoque également KNS et la procédure de licenciement collectif lancée par l'industriel. Une interview du député de la première circonscription qui était donc notre invité ce matin à 7h30 et que vous pouvez retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Et la suite de ce journal, c'est le rendez-vous du lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Même si elle apparaissait depuis des mois comme inéluctable, la décision de KNS de lancer la procédure de licenciement collectif pour motif économique de ses 1200 salariés est incontestablement une très mauvaise nouvelle pour l'économie calédonienne. Une de plus, alors qu'elle s'enfonce chaque jour davantage depuis l'attaque brutale dont elle a été la cible le 13 mai, alors qu'elle était déjà auparavant quasiment exsangue. Mais la lente agonie de l'usine du Nord ne laisse personne indifférent, parce que c'est véritablement la fin d'un rêve. Un de plus. Pour les uns, le rêve du rééquilibrage économique, pour les autres, le mirage d'une industrie du nickel qui pourrait financer l'indépendance. La doctrine nickel laisse un champ de ruines, un de plus, et c'est sur de nouvelles bases qu'il faudra reconstruire. Le pacte nickel n'aurait peut-être pas sauvé KNS, mais il aurait au moins donné une bouffée d'oxygène à tout un secteur. Et ceux qui se sont acharnés à le détruire portent aujourd'hui une terrible responsabilité. La stratégie nickel devra impérativement être abordée lors des prochaines discussions qui pourraient s'ouvrir dès le mois de septembre à Paris. Et ce sera forcément l'un des objectifs de la reconstruction à venir. Il faudra toutefois que Bercy soit de très bonne volonté pour nous proposer un nouveau plan de redressement après que certains aient mis tant de frénésie à détruire le premier. Le président de la République envisage donc une reprise des discussions dès le mois de septembre. Il l'a dit au drôle d'aréopage qu'il a reçu jeudi à Paris, composé de 4 parlementaires qui sont soit des partisans de la France, soit des soutiens de la CCAT. Il paraît qu'il faut de tout pour faire la Calédonie. Il leur a aussi annoncé son intention de reporter de nouveau les élections provinciales qui devaient se tenir avant le 15 décembre. La doctrine officielle selon laquelle en démocratie, les élections se tiennent à l'heure dite, souffrent manifestement des exceptions. Mais il faut dire que nécessité fait loi. Même si ce report doit encore être entériné par le Parlement et que ce n'est pas gagné puisque l'on ne sait toujours pas quelle majorité va finalement se dégager à l'Assemblée nationale, on peut penser que ce report fera consensus en Nouvelle-Calédonie. La résilience a ses limites et si nous avons participé, certains à leurs risques et périls, aux élections européennes et aux élections législatives, on se voit mal se lancer dans une campagne pour les élections provinciales dans le contexte particulier que connaît le territoire. De toute façon, le cas de figure avait déjà été évoqué, bien avant l'insurrection du 13 mai. Il était prévu que dans l'hypothèse où un accord serait conclu, et si nécessaire, ces élections pourraient être de nouveau reportées au plus tard au 30 novembre 2025. La loi ajoute même que dans l'hypothèse d'un report, les mandats des membres du Congrès et des assemblées de province élus en mai 2019 seront prolongés jusqu'à la première réunion des assemblées nouvellement élues. Les prochaines provinciales devraient donc avoir lieu en 2025 et la dernière mandature de l'accord de Nouméa sera donc aussi la plus longue. Mais, car il y a un mais, avec quel corps électoral se tiendront ces élections provinciales ? On a presque oublié que c'est parce qu'il fallait dégeler le corps électoral que l'on a reporté une première fois le scrutin qui devait à l'origine se tenir le 12 mai 2024. Alors maintenant on fait quoi ? On trouve par miracle un accord sur le dégel où on organise en 2025 des élections qui seront menacées de tous les recours si elles se déroulent avec un corps gelé. Personne n'a encore la réponse et on ne sait pas si cela préoccupe grand monde parce que entre la crise politique, l'absence de gouvernement et les Jeux Olympiques de Paris, on a tout de même l'impression que la Nouvelle-Calédonie brûle et que tout le monde regarde ailleurs.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, à retrouver comme chaque semaine sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réentendre juste après le flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Avec le licenciement annoncé de ces 1200 salariés, pensez-vous que KNS a encore un avenir ? Si vous pensez que KNS a encore un avenir, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, les forces de l'ordre et les pompiers sont intervenus à 2 reprises hier à Lansvata. Ils ont tout d'abord porté secours à un piéton qui a été renversé au niveau de la bodega vers 18h. Et à 20h, ils sont intervenus sur une bagarre au cours de laquelle plusieurs personnes auraient été blessées. Les circonstances exactes de cette bagarre ne sont pas encore connues. À partir de ce soir, l'entrée en vigueur du couvre-feu est donc décalée à 22h. C'est un plus pour les restaurateurs qui vont pouvoir envisager un service du soir. Et pour d'autres aussi, les horaires de livraison qui vont pouvoir être étendus, Léana Colombo.
Effectivement, la livraison de repas à domicile est devenue en quelques années une habitude pour de nombreux Calédoniens. Flemme de cuisiner ou repas convivial entre amis, les raisons sont nombreuses d'y avoir recours. Un service mis en pause depuis le 13 mai et qui reprend petit à petit. Si certains établissements assurent eux-mêmes ce service de livraison, d'autres sous-traitent avec l'application Nidit. Une reprise en douceur explique Oxens Thomas, le gérant de l'application Calédonie.
Nous, on faisait la majorité de notre chiffre d'affaires en fait, le soir, après 19h. Donc, ça a été très très dur, notamment cette mise en place du couvre-feu. Mais les clients se sont un peu adaptés, commandent plus tôt maintenant. Les habitudes des personnes ont beaucoup été modifiées avec ces couvre-feux, donc les gens commandent très tôt. Déjà, on a vu sur le décalage du couvre-feu de 20 à 21 heures, ce que ça a vraiment changé, c'est les restaurants qui ferment plus tard, donc on a pu avoir aussi plus de restaurants sur l'application. Mais finalement, les clients n'ont pas modifié leurs habitudes. On va voir ce que ça donne avec le décalage à 22 heures, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un petit temps de réadaptation avant que la consommation revienne à la normale.
Le service a été à l'arrêt durant un peu plus d'une dizaine de jours et a repris dans des zones restreintes fin mai. Pour Auxence Thomas, la priorité reste d'assurer la sécurité des livreurs.
Déjà, on essaie de suivre les recommandations de la police, des services de sécurité. On fait aussi des tests, donc on va voir dans les quartiers si c'est possible de livrer, tout simplement. Le gros levier sur lequel on joue, c'est la zone de livraison, du coup, donc c'est un levier géographique, ce qui est un peu reproché aussi par les clients qui souhaiteraient se faire livrer à peu partout, mais malheureusement, voilà, on peut pas. Voilà comment on fait. Après, on n'a eu aucun problème depuis le début et on espère que ça va durer. Voilà, on croise les doigts.
Auxence Thomas constate depuis le 13 mai une baisse générale de son chiffre d'affaires. Une des raisons est que de nombreux restaurants qui sous-traitaient la livraison ont subi des exactions, rendant impossible la reprise de leur activité. Mais les forces de l'ordre présentes sur le territoire compensent partiellement et temporairement cette perte de chiffre d'affaires.
On va marquer une première pause dans ce journal. Il est 11h42. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et à l'étranger.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole avec les suites de ce qui apparaît comme un sabotage organisé. Le trafic SNCF a été très fortement impacté en début de week-end par les incendies conjoints qui ont touché trois installations de signalisation. La SNCF assure que les travaux de réparation ont été effectués et que le retour à la normale est quasi effectif. Le reste de l'actualité en métropole tourne autour des Jeux Olympiques et d'abord les précipitations de ces derniers jours qui ont rendu la Seine impraticable à la nage en raison de la pollution constatée. Le comité d'organisation a été contraint d'annuler les entraînements prévus pour le triathlon, mais estime que c'est juste une question de temps avant un retour à la normale dans le fleuve parisien. Aucune décision n'a été prise pour l'instant pour un report de l'épreuve prévue maintenant dans deux jours. D'autre part, la cérémonie d'ouverture a provoqué quelques polémiques. Elle a même provoqué une réaction de la Conférence des évêques de France qui ont adressé un message dans lequel elle adresse ses pensées à tous les chrétiens qui ont été blessés par l'outrance et la provocation. En cause d'un tableau considéré comme une caricature de la scène, le dernier repas du Christ, avec des drag queens. Thomas Joly, le concepteur de la cérémonie, assure qu'il ne s'est pas inspiré du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Mais le comité olympique s'est toutefois excusé si ce tableau a pu choquer par la voix de la directrice de communication du CNOSF, Anne Descamps.
Clairement, il n'y a jamais eu l'intention de manquer de respect à un groupe religieux. Au contraire, je pense que Thomas Joly a vraiment essayé de... Il avait vraiment l'intention de célébrer la tolérance. C'était ce qu'il disait hier et en regardant le résultat des sondages que nous avons partagés, nous pensons que cette ambition a été réalisée. Si des gens se sont sentis offensés, nous en sommes bien sûr vraiment très désolés.
Anne Descamps, la directrice de communication du comité olympique. Signe du malaise, quelques heures plus tard, c'est le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, qui a tenté de calmer le jeu en se défendant de quelque attaque que ce soit.
L'objectif de cette cérémonie, c'était encore une fois de faire rayonner la France, de faire rayonner les artistes, les athlètes, de mettre à l'honneur du mieux possible notre pays. Si certains ont pu ne pas apprécier certains tableaux, certains moments, certains artistes, on le déplore. Nous, notre objectif, c'était de faire plaisir aux gens, de les rassembler, de célébrer la France, de célébrer l'amour que la France a envie de déclarer aux athlètes du monde entier. Il n'y avait pas de volonté de nuire, de critiquer quelques cultures, quelques religions. C'est l'expression artistique française qui s'est exprimée dans toute sa diversité. Et encore une fois, on espère vraiment que c'était un moment que les Français et dans le monde entier ont apprécié. On a plutôt de très bons retours.
Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques. L'actualité à l'étranger avec cette inquiétude sur un embrasement du conflit entre Israël et le Hezbollah. Le mouvement terroriste piloté par l'Iran aurait tiré une roquette dans le nord d'Israël sur un village du Golan situé à la frontière avec le sud Liban. 12 enfants et adolescents qui participaient à un tournoi de football ont été tués, plusieurs autres blessés. Caroline Baudry pour Europe 1.
Selon Israël, c'est une roquette de fabrication iranienne que seul le Hezbollah possède qui a explosé sur ce terrain de football dans la petite ville de Majdal Shams, à majorité druze dans le nord du pays. Alors que se tenait un tournoi, 12 garçons et filles âgés de 10 à 16 ans ont été tués, 30 blessés. Aujourd'hui, une foule éplorée a assisté aux funérailles. Ce tir est intervenu après l'annonce de la mort de 4 combattants du mouvement islamiste libanais dans une frappe israélienne.
À tort ou à raison, les Israéliens considèrent, et là ça dépasse la propre personne du Premier ministre, que de manière consensuelle, que la question du Nord doit être réglée d'une manière ou d'une autre. Et au fil des mois, les responsables militaires et surtout politiques ont effectivement privilégié la solution diplomatique, notamment sur la question de la résolution 1701 qui ne serait pas appliquée et qui maintiendrait une présence du Hezbollah qui normalement ne devrait pas être dans le sud Liban, faute de quoi il y aurait l'option militaire qui s'imposerait, et c'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui.
David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, que vous venez d'entendre. Une réponse militaire qui pourrait, selon ce spécialiste, atteindre Beyrouth. Une riposte de nature terrestre fait également partie des scénarios. Paris et Londres appellent à éviter une escalade militaire. Nous ne voulons pas que le conflit s'aggrave, affirment les États-Unis, tout en soutenant le droit d'Israël à défendre ses citoyens.
Israël a promis une guerre totale au Hezbollah et les craintes d'une escalade sont maintenant réelles.